Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous avons fait une pause par rapport à notre étude de l'Évangile de Luc au cours des 5 dernières semaines. Et c'est maintenant la 6e semaine, au cours de laquelle je vous parle de la délivrance, la doctrine négligée. J'ai fait cela parce que je me sens obligé devant le Seigneur de vous donner une compréhension de la situation actuelle de l'Église évangélique. Je le fais avec une certaine réticence. Ça ne me fait pas du tout plaisir de le faire. Cela m'attriste. Je n'aime pas forcément souligner plusieurs des choses que j'ai révélées, et pourtant c'est la vérité, et c'est ma responsabilité devant Dieu. Ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est que l'évangélisme se trouve dans une situation désespérée, et ce désespoir se manifeste par son incapacité à identifier qui est véritablement chrétien. Nous avons abandonné toute compréhension claire de ce que cela veut véritablement dire être sauvé. Je dis nous, au sens large, de l'évangélisme, ceux d'entre nous qui enseignent la Bible, ceux d'entre nous qui soutiennent la saine doctrine, devons nous lever et déclarer la vérité. J'ai tenté de vous montrer l'ampleur de ce problème, et j'aimerais conclure les commentaires sur les gens et les questions avec un accent particulier ce matin. Nous avons tous été influencés par Billy Graham à travers les années, d'une manière ou d'une autre. Il a été pour nous le porte-parole du christianisme évangélique. Il est devenu le symbole des prédicateurs de l'Évangile pour le monde, et même pour l'Église. Lui, plus que qui que soit d'autre, a influencé l'évangélisme à travers sa prédication, à travers son évangélisation concertée, à travers son influence sur Wheaton College, Fuller Seminary, Christianity Today et plusieurs autres agences. Il y a un article dans un journal qui commente et passe en revue son autobiographie, Just as I am, tel que je suis. Et je pense que cela mériterait de vous donner un aperçu sur la question, parce que je pense qu'il souligne l'ampleur de ce problème. L'éditeur du journal dit « Bien que Billy Graham soit devenu le symbole même d'un évangile plein de douceur, de compassion et d'amour, il est également devenu le symbole d'un évangélisme au discours prudent, politique et non théologique. Il n'a jamais réussi à échapper au pragmatisme théologique flou de l'évangélisme moderne. C'est Billy Graham qui, plus que n'importe quelle autre figure de ce siècle, a contribué à créer par sa personnalité écrasante, la crise évangélique actuelle qui menace de détruire les institutions mêmes et les causes dans lesquelles Graham a investi sa vie et son énergie pendant plus de 55 ans. » Fin de citation. C'est une triste déclaration, mais elle est appropriée au vu des faits. Une récente interview publique avec Billy Graham et Schuller le ressort bien. Graham a loué sans réserve le ministère de Schuller, qui constitue un ministère de ce qu'on appelle la néo-orthodoxie, combiné à de la psychologie, et non pas du christianisme historique. Au cours de la discussion, cependant, et c'est du verbatim, je vais juste partager avec vous certaines choses qui vont ouvrir votre compréhension. Le docteur Schuller dit, s'adressant à Billy Graham, « Dites-moi, quel est le futur du christianisme ?» Le docteur Graham répond, « Eh bien, le christianisme est le fait d'être un véritable chrétien. Vous savez, je crois qu'il y a le corps de Christ qui est issu de tous les groupes chrétiens du monde. » Ou en dehors des groupes chrétiens. Je pense que chaque personne qui aime Christ ou connaît Christ, qu'elle en soit consciente ou pas, est membre du corps du Christ. Et je ne pense pas que nous assisterons jamais à un grand réveil qui amènerait le monde entier à se tourner vers Christ. Maintenant, arrêtons-nous là. Il a dit que des personnes en dehors des groupes chrétiens sont membres du corps du Christ, que les gens peuvent aimer et connaître Christ, qu'ils en soient conscients ou pas, et être membres du corps du Christ. Et par conséquent, nous n'assisterons pas à un réveil radical qui amènerait le monde entier à se tourner vers Christ à un quelconque moment, manifestement parce que ce n'est pas nécessaire. Il poursuit en disant, ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est qu'il appelle les gens à sortir du monde pour son nom, qu'ils viennent du monde musulman, ou du monde bouddhiste, ou du monde chrétien, ou du monde non-croyant. Ils sont membres du corps du Christ parce qu'ils ont été appelés par Dieu. Il se peut qu'ils ne connaissent même pas le nom de Jésus, mais ils savent dans leur cœur qu'ils ont besoin de quelque chose qui leur fait défaut, et ils se tournent vers la seule lumière qu'ils ont, et je crois qu'ils sont sauvés, et qu'ils seront avec nous au ciel. Le docteur Schuller dit, « Ce que je vous entends dire, c'est qu'il est possible que Jésus-Christ vienne dans un cœur, une âme et une vie humaine, même s'ils sont nés dans les ténèbres, et qu'ils n'ont jamais été exposés à la Bible. Est-ce une interprétation correcte de ce que vous êtes en train de dire ?» Le docteur Graham répondit, « Oui, c'est bien cela, parce que je le crois. J'ai rencontré des personnes dans divers coins du monde, dans des situations tribales, qui n'avaient encore jamais vu de Bible, ou entendu parler de la Bible, n'avaient encore jamais entendu parler de Jésus, mais ils avaient cru dans leur cœur qu'il y avait un Dieu, et ils essayaient de mener une vie qui était vraiment différente de leur entourage, au sein de leur communauté. » Docteur Schuller, c'est fantastique, je suis heureux de vous entendre dire cela. Il y a de la place dans la miséricorde divine. Le docteur Graham, il y en a effectivement. En réponse à cette interview, l'éditeur de ce journal a écrit à l'organisation Billy Graham et a reçu cette réponse qui disait « Les points de vue du docteur Graham sont ceux qu'ils ont toujours été. Apparemment, ces points de vue ont toujours été que les musulmans font partie du corps du Christ. Les bouddhistes sont membres du corps du Christ. Les individus qui n'appartiennent pas à un groupe chrétien font partie du corps du Christ. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de la Bible font partie du corps du Christ, s'ils s'efforcent d'être meilleurs que leur entourage. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus font partie du corps du Christ. C'est quasiment une contradiction inconcevable qu'un homme qui croit cela ait été en mesure de susciter des millions et des millions et des millions de dollars en tant qu'évangéliste, afin de rassembler les gens à travers le monde, dans de grands stades, et leur dire qu'ils ont besoin de croire en Jésus-Christ, pour leur prêcher l'Évangile avec passion, leur parler du jugement de Dieu, les appeler à la foi au Sauveur, qui est mort et qui est ressuscité, et les avertir du jugement à venir s'ils manquaient de croire. Quel genre de schizophrénie est-ce donc là? Pas étonnant qu'ils soient en mesure d'embrasser des catholiques romains, des orthodoxes grecs et des libéraux théologiques, qui nient la divinité de Jésus-Christ. Est-ce donc surprenant qu'ils puissent dire de Larry King qu'il n'a eu aucun problème avec les mormons, qu'il n'a aucun problème avec les juifs qui rejettent Jésus? Que se passe-t-il ici? Et je ne suis pas en train de parler d'un individu qui n'aurait aucune influence. Je parle d'une personne dont l'influence est omniprésente. C'est pour cette raison que vous êtes en mesure de vous rendre sur le campus d'une université chrétienne aujourd'hui et trouver des enseignants qui croient en la parole de Dieu et ceux qui n'y croient pas. Vous allez dans un séminaire et vous trouvez ceux qui croient en la vérité de Dieu et l'Évangile et ceux qui veulent intégrer tout le monde. Ce genre d'évangélisme prévaut aujourd'hui, et c'est en train d'être systématiquement développé et répandu, et les gens sont réticents à appeler cela parce que c'est vraiment, de peur d'être considérés comme malveillants. Et c'est vraiment difficile de trouver un lieu pour le faire, parce que si vous le faites, je peux me permettre de le dire ici à l'intérieur, si je vais là-dehors, et je le dis, personne ne m'invitera. C'est une des choses auxquelles nous sommes confrontés dans notre ministère radiophonique. Si nous continuons de prêcher la vérité, continuons de prêcher la vérité, continuons de prêcher la vérité, le climat évangélique est tellement réfractaire à cette vérité qu'il y a des chances pour qu'il nous fasse sauter. À présent, je dois poser une question. L'Évangile manque-t-il de clarté à ce point? Est-il si flou? Est-il si difficile de comprendre l'Évangile? Le Nouveau Testament n'est-il pas clair à ce sujet? Ne nous fournit-il pas assez de lumière pour savoir qui est chrétien? Et ce que cela signifie que d'être membre du corps de Christ, et ce qui est indispensable pour aller au ciel. Je veux dire, la Bible ne dit-elle pas « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». La Bible ne dit-elle pas que quiconque n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ est maudit. La Bible ne dit-elle pas que le salut s'obtient par la foi, et que la foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu, et ce qu'on entend au sujet du Christ. Et comment entendront-ils si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si personne ne part? Sommes-nous donc vraiment censés rapatrier tous les missionnaires? Devons-nous réellement cesser d'évangéliser puisque quiconque, à quelque endroit que ce soit, pense du bien au sujet de Dieu et s'efforce d'être quelque peu différent de sa communauté, ira au ciel? Ici, on est en train d'enlever le cœur de l'Église, ainsi que celui de notre ministère. Si donc le Nouveau Testament règle la question, alors nous n'avons aucun droit d'ignorer le Nouveau Testament. Nous n'avons aucun droit de le redéfinir à notre convenance pour nous faire aimer, pour nous faire accepter. Le christianisme véritable et historique n'a jamais été confus au sujet de ce que cela signifie que d'être chrétien. Jamais. Le christianisme authentique et historique a toujours su que la position du Nouveau Testament sur la question était aussi claire que de l'eau de roche. Le Nouveau Testament nous dit que tout ce que nous avons besoin de savoir pour être indubitablement certain de ce qu'une personne doit croire pour être sauvée. Il ne manque aucune information pour permettre d'avoir du discernement. L'information et la vérité ne font pas défaut pour pouvoir distinguer entre les vrais et les faux, entre les chrétiens de nom et les chrétiens véritables. Et nous avons dit qu'une très bonne manière de comprendre qui est un véritable chrétien consiste à comprendre cette grande vérité de la délivrance. Si vous comprenez la délivrance, vous comprendrez cette question. Vous pouvez reconnaître un véritable chrétien par le fait qu'il a été délivré. Ils ont été délivrés. Et tout d'abord, ils ont été délivrés de l'erreur à quoi ? La vérité. Personne n'est chrétien sans croire la vérité au sujet de Jésus. Les musulmans ne croient pas la vérité au sujet du Christ. Les bouddhistes ne le font pas. Les non-croyants ne le font pas. Les mormons ne le font pas. Les juifs ne le font pas. Les tribus païennes non plus. S'ils ont un cœur qui recherche Dieu, si le Saint-Esprit stimule leur cœur, croyez-moi, Dieu leur portera cette vérité au sujet du Christ pour qu'ils puissent croire. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom, n'est-ce pas ? Quiconque est croyant est parvenu à la connaissance de la vérité pour comprendre la vérité, croire la vérité, embrasser la vérité, aimer cette vérité et rejeter toute autre chose en tant que moyen de salut. Une chose peut être dite au sujet d'un chrétien. Il connaît la vérité. Il aime la vérité. Il adore le Dieu de vérité. Exalte le Christ de vérité. Il est habité par l'Esprit de vérité. Et il obéit à la parole de vérité. La vérité constitue le cœur et l'âme de l'Évangile qui sauve. La transformation commence avec une transformation des ténèbres à la lumière. Les ténèbres constituent une métaphore dans Colossiens 1, versets 2 et 13. Pour l'erreur, tandis que la lumière est une métaphore de la vérité. Nous devons aller aux quatre coins du monde, braves gens. Et nous devons annoncer la vérité aux gens, la seule vérité qui sauve. Si tous ces gens font déjà partie du corps du Christ, et s'ils sont tous en route pour le ciel, alors pour quelle raison envoyons-nous tous ces gens, des millions et des millions et des millions de dollars, pour aller faire quelque chose d'inutile? Et vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'évangélisation? Je vais vous dire ce qui ne va pas. Quelqu'un pourrait dire, « Eh bien, c'est à cause de la pression sociale. C'est la pression du monde. » Non, ce n'est pas la pression qui vient du monde. Ce n'est pas la pression sociale. Ce n'est pas la culture qui fait ça. Ce ne sont pas les non-croyants qui nous infligent cela. Ce n'est pas l'extérieur qui nous fait ça. Le problème, c'est qu'il y a au sein du christianisme un faux enseignement. Yann Murray a eu raison d'écrire dans son livre « L'évangélisme divisé ». Le déclin spirituel ne constitue pas un mystère que l'Écriture laisse inexpliqué. Il découle de la présence de la fausseté là où il devrait y avoir la vérité. Fin de citation. En d'autres termes, le problème, c'est que nous sommes imbibés de mensonges. C'est ça le problème. Quelque chose qu'on apprend très vite lorsqu'on étudie la Bible, c'est que Dieu est un Dieu de vérité et que Satan est un menteur. Et depuis le commencement, depuis sa toute première rencontre avec Ève dans le jardin d'Éden, Satan a conduit l'humanité tout entière dans le péché avec ses mensonges. Et la Bible met en garde contre les faux docteurs de l'avant, en arrière, du début à la fin, de haut en bas. La Bible parle à maintes reprises de la tromperie. La tromperie, les chiens muets qui ne peuvent aboyer, les nuages sans eau, des chiens muets incapables d'aboyer, était une expression d'Ésaïe. Ésaïe 56 au verset 10. Ces gens arrivent, Jérémie 8 verset 11, et ils disent « Paix, paix ». Ils connaissent le chemin de la paix. Le chemin de la paix, et il n'y a point de paix. Ils présentent un moyen de faire la paix avec Dieu, une voie de réconciliation, mais c'est un mensonge. Il s'agit d'une tromperie. Ils sont des prophètes, Jérémie 23 dit que Dieu ne les a pas envoyés. Ils s'en vont, mais Dieu ne les a point envoyés. Ils parlent, mais non de la parole de Dieu. La fausse doctrine mène l'Église à l'impuissance, dans la confusion, dans l'hérésie. Le grand prédicateur écossais, Horatius Bonar, a écrit ces paroles au sujet de Satan et de l'Évangile. Il arrive comme un ange de lumière, pour égarer tout en prétendant conduire, pour aveugler tout en disant d'ouvrir les yeux, pour obscurcir et dérouter tout en professant illuminer et guider. il nous aborde avec les bonnes paroles. La libéralité, le progrès, la culture, la liberté, l'expansion, l'élévation, le bénévolat. Il cherche à s'approprier de toutes choses, à les offrir au monde, autant qu'il en faut pour atteindre cet objectif, autant qu'il en faut pour qu'il puisse se passer de Dieu et du Christ et du Saint-Esprit. Il s'oppose à Dieu et aux choses de Dieu en tout point. Il peut renier l'Évangile, ou il peut l'altérer. Il peut obscurcir l'Évangile, ou il peut le neutraliser. Il se déchaîne contre le véritable Dieu, parfois ouvertement et grossièrement, et d'autres fois calmement et poliment, en faisant croire aux gens qu'il est l'ami de la vérité. Il est possible de reconnaître un véritable chrétien. Un vrai chrétien connaît la vérité, comprend la vérité, aime la vérité, vit pour la vérité. Personne n'est sauvé sans cela. C'est la vérité sur qui est Dieu, la Trinité, le Saint, l'Éternel souverain de l'univers, qui Christ est, Dieu fait chair, qui a vécu une vie sans péché, qui est mort d'une mort substitutive, bien qu'il ait été exempt de tout péché, qui est ressuscité le troisième jour d'une résurrection physique, après avoir triomphé de la mort, et qui est monté au ciel, d'où il a envoyé le Saint-Esprit. Maintenant il intercède pour nous, mais un jour, il reviendra établir sa gloire et son royaume éternel. Il faut croire que le salut s'obtient uniquement par la grâce au moyen de la foi, en Jésus-Christ seul, sans tenir compte d'une quelconque œuvre. Peu importe que vous essayiez d'être quelque peu meilleur que les autres qui vous entourent. C'est ça la vérité. Et en dehors de cette vérité, personne n'est sauvé. Et si quelqu'un est chrétien, alors il connaît cette vérité. Il comprend cette vérité. Il croit cette vérité. Et il embrasse cette vérité. Deuxièmement, les chrétiens n'ont pas seulement été délivrés de l'erreur pour la vérité, mais également du péché pour la justice. Souvenez-vous dans Romains 6. Retournez-y un instant. Romains 6, versets 17 et 18, constitue un verset très important étant donné qu'il saisit l'essence de cette doctrine de la délivrance. Romains 6, verset 17, et le milieu du verset. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Telle est la version grecque. Vous avez obéi de tout cœur à cette forme d'enseignement, ce corps de doctrine, ce corps de vérité auquel vous avez été soumis. C'était votre salut. Vous êtes sorti des ténèbres à la lumière, de l'erreur à la vérité. Du fond de votre cœur, vous avez obéi à cette doctrine, ce corps d'enseignement au sujet de Jésus-Christ et de l'Évangile. Vous y avez cru. Vous y avez été soumis. Retournez à présent, au début du verset. Mes grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, descendez au verset 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice, la seconde chose dont vous avez été délivré, non pas seulement de l'erreur à la vérité, mais du péché à la justice. C'est possible d'identifier un véritable chrétien. Il pratique la justice. Il a été délivré du péché à la justice. La semaine dernière, nous avons examiné 1 Jean chapitre 3, une formidable portion de l'Écriture, à partir du verset 4, en descendant jusqu'au verset 10 de 1 Jean 3. Nous avons vu comment celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui demeure en Dieu ne continue pas à avoir un style de vie de péché. Si vous êtes un véritable chrétien, alors vous obéissez à la parole de Dieu. Vous pratiquez la justice en tant que style de vie. Verset 7 de 1 Jean 3. Petits enfants, que personne ne vous égare. C'est ce que les gens font. Ils vous égarent, ils vous mentent, c'est clair. Celui qui pratique la justice est juste. Maintenant, jusqu'à quel point cela est-il clair? Et qu'est-ce que la justice? La justice est définie comme étant le saint standard de Dieu. Si vous pratiquez la justice, alors vous êtes juste. C'est-à-dire que vous avez été délivré du péché à la justice. Vous êtes un chrétien. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est aussi simple que cela. Cela ne signifie nullement que les chrétiens ne pêchent jamais. Cela veut plutôt dire que pécher n'est pas leur style de vie. Ce n'est pas leur pratique. Et lorsque nous disons d'un médecin qu'il a une façon de faire, une pratique, ce que nous signifions par là, c'est qu'il a un style, un accomplissement professionnel. Vous avez également une pratique en tant que chrétien, et c'est la pratique de la justice. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes pas chrétien. Il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Le verset 10 dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Qui est chrétien? Quelqu'un qui pratique la justice. Je n'oublierai jamais la fois où je me suis retrouvé dans ce débat, après avoir écrit le livre sur l'Évangile selon Jésus, et que j'ai dit que les gens qui sont véritablement chrétiens mènent une vie de droiture. et je suppose qu'on peut dire que le ciel tout entier s'est littéralement déchaîné, et les gens se sont mis à me critiquer et à écrire des livres contre moi en disant « Attendez une minute, une personne peut très bien être chrétienne sans pour autant avoir une quelconque justice. Il est même possible d'être un croyant incrédule. Il est possible de rejeter Dieu, de maudire Dieu, et de mener une vie de péché, et malgré tout être chrétien. Quoi ? Cela fait partie de l'évangélisme d'aujourd'hui. Il s'agit d'un événement. Le fait d'aller devant, de lever la main, de signer une carte, de lire une prière, de faire une expérience émotionnelle. C'est cela le salut, et ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes le reste de votre vie. Ce n'est pas ça. Les enfants de Dieu et les enfants du diable sont clairement reconnaissables par leur pratique. Jacques déclare dans Jacques 2, versets 14 à 26. Vous ne pouvez dire que vous avez la foi, mais la foi sans quoi ? Les œuvres ? Et quoi ? Morte ? Ça n'existe pas. Si vous n'avez pas un style de vie qui montre clairement que vous avez une nouvelle vie, alors c'est quelque chose qui n'existe pas. Littéralement, l'ancienne vie est morte. La nouvelle vie est là. Vous êtes mort avec Christ. Vous êtes ressuscité pour marcher en nouveauté de vie. Vous êtes une nouvelle création, et cette nouvelle création se manifeste par la pratique de la droiture. Et si la pratique de la justice est absente, alors vous êtes un enfant du diable, et non un enfant de Dieu. Et pratiquer la justice signifie tout simplement que vous êtes, du fond de votre cœur, non seulement obéissant à la forme de la doctrine, mais de tout votre cœur, vous êtes obéissant à ses standards de droiture, ce qui revient à dire que les véritables chrétiens croient ce qu'il convient de croire, et agissent comme il convient. Et lorsque nous commettons un péché, c'est un chagrin pour nous, parce que nous aimons la justice. Il y a un autre élément de délivrance. Le chrétien était délivré du monde temporel pour le royaume éternel. Vous savez, j'observe tous ces politiciens, et je me contente de sourire en les regardant. Et je regarde certains politiciens, et c'est un peu comme si vous connaissez l'expression « deux véhicules dans chaque garage et un poulet dans chaque marmite », formulé dans la langue vernaculaire de nos jours. Et ils promettent ceci, et ils promettent cela, et ils promettent ceci, et ils promettent cela. Et les gens se mobilisent en grande foule, et ils crient et hurlent, et ils brandissent des symboles. Et vous savez, rien de tout cela n'a d'importance. Tout cela est passager, des choses temporelles. Vous savez, j'ai envoyé cette lettre juste pour vous inviter à voter pour la personne dont les convictions sont les plus proches des préceptes bibliques. Parce que vous ne trouverez personne qui soit absolument conforme à la Bible. Ils ne peuvent pas aller aussi loin. Ce sera impossible, parce que le monde ne les laissera pas faire. Vous faites cependant de votre mieux. Et pourtant, quand vous écoutez la rage et la passion avec lesquelles ces gens parlent de toutes ces choses, ce n'est que le monde. Ce n'est que le monde. Regardez dans Galates 1. Tout cela va se consumer. C'est juste un peu comme si on réarrangeait les fauteuils de pont du Titanic. Écoutez Galates 1, verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, j'ai pris le nom de notre programme radiophonique à Paul, Grace to you, verset 4, qui s'est donné lui-même pour vos péchés, et c'est ça, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est une formidable doxologie, n'est-ce pas ? Nous avons été délivrés de ce présent siècle mauvais pour le royaume éternel. En passant, c'est ce que nous appelons un subjonctif grec, qui indique le but. Jésus est mort pour nous délivrer de ce présent. Aion, méchant, c'est ce qui est inhérent à son salut. L'objectif même de notre salut était de nous délivrer du présent siècle mauvais. Que dit-il ? Ce qu'il dit, c'est que si vous êtes sauvés, c'est que vous avez été délivrés de systèmes du monde méchant. Cela ne vous intéresse plus du tout. Cela ne vous attire plus. Je vous dis, vous devez sortir et voter pour ceux qui montrent un standard de droiture, parce que Dieu sera honoré si vous le faites. Mais pour nous, c'est parfois difficile à faire, parce qu'il n'y a vraiment rien dans le système, en fin de compte, qui nous motive. La mort de Jésus était pour tous ceux qui croient à un effort de sauvetage. Et vous pouvez reconnaître un chrétien, un véritable chrétien, par son manque d'intérêt dans le présent système mondain. Le terme délivré ici, juste une petite note à ce sujet, est exaireo. Il signifie sauver. Il n'est employé qu'à quelques occasions dans le Nouveau Testament. Il est utilisé dans le 7e chapitre des Actes, où Étienne est en train de prêcher son serment devant le Sanhédrin, raison pour laquelle il a été lapidé. Vous vous en souvenez, à mort. Et il était en train de décrire comment Dieu a délivré Joseph et ses enfants, les enfants d'Israël, de l'affliction égyptienne, aux alentours du 10e verset de Acte 7. Et une fois de plus, je pense que c'est répété au 34e verset, et c'est le terme « secourir », « délivrer », « sauver les enfants d'Israël et Joseph », de l'affliction, de la souffrance égyptienne. Pierre a utilisé le mot pour parler de la délivrance que Dieu lui a accordée en le sortant de la prison en Acte chapitre 12 et verset 11. Et le commandant romain, Claude Lysias, l'a utilisé pour parler du sauvetage de Paul, de cette foule en colère à Jérusalem, dans Acte 23 verset 27. C'est donc un terme qui signifie « tirer quelqu'un d'une situation très dangereuse ». Par ailleurs, lors des quatre occasions où ce terme est employé, il est utilisé dans un sens physique. Ce n'est qu'à une occasion qu'il est employé au sens métaphorique. Et c'est ici, et il est utilisé pour faire référence à la croix, la mort du Christ, qui s'est donnée pour nos péchés, afin de nous sauver de présents siècles mortels et dangereux. Il est mauvais en ce sens, qu'il est caractérisé par le mal. Il est dominé par le mal. Le mot « siècle » est « aïon ». Il ne fait pas référence au temps, mais plutôt à un système, à une ère. Et le présent siècle mauvais a commencé au moment de la chute, et il se poursuivra jusqu'à ce que Jésus revienne et établisse son royaume de justice. Entre la chute et l'établissement du royaume du Christ se trouve ce présent siècle mauvais. Il est caractérisé par les mensonges. Il est caractérisé par la tromperie. Il est caractérisé par l'agenda de Satan. Il est caractérisé par ce qui est temporel, ce qui n'appartient qu'au temps, ce qui est physique, qui est passager, qui finira forcément par être détruit. Et le Seigneur nous a délivrés de cela. Une autre manière de dire que c'est terminé au 6e chapitre de Galates, regardez ça au chapitre 6, verset 14. Il parle en quelque sorte ici de la manière dont les pharisiens s'enorgueillissaient de leurs œuvres, étaient fiers de leur pharisianisme, justice propre. Et Paul n'est pas comme les circoncis, qui se vantent de leur observation méticuleuse de la loi. Verset 14, il dit « Loin de moi la pensée de me glorifier. Je ne vais pas me glorifier d'une quelconque chose qui se trouverait en moi. Je n'ai en moi rien qui soit digne. Mais si je dois me glorifier, je me glorifierai que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cette croix a accompli? Qui, par le monde, est crucifié pour moi? Comme je le suis pour le monde, qu'est-ce que cela signifie être crucifié? Être mort, c'est juste une manière dramatique d'exprimer l'idée de mort. Paul dit que Jésus-Christ est allé à la croix, et à travers son œuvre sur la croix, le monde est mort pour moi, et je suis mort pour le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie tout simplement que le monde n'a aucune relation avec le croyant, et que le croyant n'a aucun lien véritable avec le monde. Et ce que nous entendons par le terme « monde » ici n'est pas la nourriture, le soleil et les choses normales de la vie que Dieu nous a accordées. Mais il parle dans ce passage des idées et des idéologies, des modes de pensée et des valeurs, et des honneurs, et des accomplissements, et des réalisations, et toutes les choses dans lesquelles tout le monde est impliqué, les plaisirs, les trésors, les honneurs, les valeurs, les idées. Si vous retournez à 2 Corinthiens 10, au verset 5, un passage très important. Il parle des idéologies, le logismos. Paul dit « Nous renversons les raisonnements ». Et plus loin, il les décrit comme tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, toute idée anti-Dieu, toute idée qui s'oppose à Dieu. Je veux faire mon devoir en prenant soin de ma concession de manière à ce qu'elle reflète la beauté de la création divine. Mais je ne veux pas m'engager dans ce truc écologique « Sauvons la planète, sauvons la planète, sauvons la planète ». C'est une planète à usage unique. Elle est ainsi conçue. Le péché est en train de catapulter cette planète vers la destruction. Et comme je l'ai déjà dit, si vous pensez que nous détruisons la planète, alors attendez de voir ce que Jésus va en faire. C'est un monde qui passe. Toute cette action, toute cette furie et toute cette attention médiatique pour toutes ces choses n'affectent en rien l'âme éternelle d'un quelconque individu. Certains vont à l'université et obtiennent des doctorats pour être capables de réorganiser des chaises longues. Ce sont toutes des choses qui s'érigent contre la connaissance de Dieu. Paul dit, « Lorsque je suis venu à Christ, je suis mort à ces choses, et ces choses sont mortes pour moi. Cela n'a aucun lien avec moi, et je n'ai rien à voir avec ça. » Regardez Colossiens 2, juste une pensée au verset 20. « Puisque vous êtes mort avec Christ, serait une meilleure façon de le traduire. » puisque vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde. Arrêtez-vous là. Et, puisque vous êtes mort avec Christ, vous êtes mort au rudiment. J'aime cela, parce qu'il dit que tout ce que le monde peut offrir, comparé à la vérité de Dieu, est élémentaire. C'est du langage enfantin. C'est nous qui sommes des personnes véritablement profondes. Nous avons une vérité transcendante. Les titulaires de PhD les plus instruits, les philosophes et les penseurs les plus brillants de notre temps, c'est de l'école élémentaire comparée à ce que nous savons. Nous connaissons l'origine de l'univers. Nous savons comment il est venu à l'existence. Nous savons qui l'a fait et pourquoi il l'a fait. Nous savons comment tout cela va se terminer. Nous savons ce qu'est une véritable compréhension. Nous sommes morts au langage enfantin, ce truc élémentaire. Un autre passage, et je terminerai. 1 Jean 2, ce sera le dernier que nous examinerons. 1 Jean 2, et c'est bref. Eh bien, on y ajoute un autre tout aussi bref. Cela ne prendra qu'un commentaire ou deux. 1 Jean 2, verset 15. Le terme traduit par monde est cosmos. C'est le contraire du mot chaos. Chaos signifie désordre en grec, exactement comme en français. Cosmos signifie ordre. C'est pour cette raison que nous parlons des cosmétiques. Ils prennent en quelque sorte le chaos pour le mettre en ordre. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. C'est le mot utilisé. Mais cosmos, c'est l'ordre. C'est le système du présent siècle mauvais. Il s'agit d'un système. Un système exalté d'idées et de théories, et de points de vue et de valeurs et d'honneurs et de trésors, et de plaisirs, qui ont été conçus par Satan, et qui incitent au péché. Au verset 15, il dit « N'aimez point le monde, ce cosmos, ce présent, aïon, mauvais, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est quoi? Si vous l'aimez, vous n'êtes pas un chrétien. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas à la fois aimer le monde et aimer Dieu. J'aime la création de Dieu. Je la vois comme étant son œuvre. Qu'en est-il de vous? Je ne regarde pas les montagnes en disant « L'évolution n'est-elle pas magnifique ?» Je ne regarde pas un bébé pour ensuite dire « Dieu merci pour cette amibe qui un jour, dans une piscine quelque part, a décidé de se diviser. Merci Dieu pour la sélection naturelle. » J'ai entendu quelqu'un dire cela. « Merci Dieu pour la sélection naturelle. » Mais quand je vois une personne, je vois une création de Dieu. Je vois une personne faite à l'image de Dieu. Quand je vois une montagne, je vois l'œuvre de Dieu et les cieux proclament sa gloire, n'est-ce pas? Le firmament montre son œuvre. Et j'apprécie le monde, et j'aime ce qu'il a fait, et j'apprécie les plaisirs merveilleux et enrichissants qu'il a placés dans le monde. Cependant, pour moi, tout cela parle de lui. Il ne s'agit que de lui. Il est dans chaque fleur, il est dans chaque colline, il est dans chaque plaisir, il est dans chaque chose, partout, sa main est là. Je l'aime, et j'aime son monde, car, comme a dit l'écrivain de Ligme, c'est le monde de mon Père. Cependant, si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en vous. Si l'objet de votre amour est ce monde qui passe, c'est que vous n'êtes pas chrétien. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il y a des types de personnes différentes ici. Vous avez ceux qui aiment Dieu et vivent éternellement, et vous avez ceux qui aiment le monde, qui est destiné à brûler. Nous n'aimons pas le monde. Nous en avons été délivrés. Ma vie n'est pas enflammée par ce qui se passe dans le monde. Franchement, ma vie est consumée par ce qui se passe dans le monde à venir. Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'où, d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Les choses qui sont sur cette terre sont tout simplement des choses qui, pour ce temps et en ce lieu, donnent gloire à Dieu, et je veux en jouir et rendre grâce à Dieu pour elles. Cependant, elles n'ont aucune valeur durable. Elles constituent des expressions temporelles de sa grâce et de son amour ordinaire. Nous n'aimons pas le monde, pour commencer, à cause de ce qu'il est. C'est le monde. C'est le système de Satan. Nous ne l'aimons pas à cause de ce qu'il fait. Il incite au péché. Satan se sert du monde pour stimuler notre chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il fait défiler ses plaisirs matériels, ses plaisirs sexuels, ses accomplissements académiques, ses honneurs, ses distinctions, ses pouvoirs, ses philosophies devant nous. Cela nous amadoue et stimule notre sensualité, notre convoitise et notre orgueil. Telles sont les catégories de tentations par ordre croissant. la sensualité et la corruption de l'être intérieur, la surestimation du corps. La convoitise est une corruption de l'être qui est plus élevé, la surestimation de la beauté qui se transforme en convoitise. L'orgueil est la corruption de l'être la plus élevée, et c'est l'exaltation de soi, qui consiste à se prendre pour Dieu. Le monde incite à cela. Nous ne l'aimons pas parce que c'est le monde, et nous ne l'aimons pas pour ce qu'il est, et nous ne l'aimons pas pour ce qu'il fait. Il ne cherche qu'à nous faire tomber. Nous ne l'aimons pas non plus pour là où il va. Verset 17. Il est en train de disparaître. Il se trouve dans un processus de parajetai, destruction. Le système se trouve dans un processus de dissolution. Il va s'autodétruire. Il est autodestructeur. Maintenant, le principe de la mort est déjà à l'œuvre dans le monde. Il est atteint de la maladie mortelle, qui est le péché, qui le tue. Et les gens sont toujours en train de dire « On dirait que les choses vont de mal en pire. Nous ferions mieux de reconquérir l'Amérique. Regardez, braves gens. Les choses n'arrêtent pas d'empirer, et elles vont continuer de se dégrader. C'est l'impact accumulé du péché. Il est frappé par une maladie fatale qui est en train de le tuer. C'est pour cette raison que dans 1 Corinthiens 7 au verset 31, Paul écrit « Car le monde dans sa forme actuelle passe, mais nous appartenons à un royaume, fin du verset 17, qui demeure, pour combien de temps ? Éternellement. Nous nous affectionnons des choses qui sont en haut. C'est ainsi qu'on reconnaît un chrétien. » Un dernier coup d'œil à 1 Jean 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Parce que tous ceux, ou quiconque, est né de Dieu, j'aime ça, triomphe de quoi ? Du monde. Le monde n'a plus cet attrait. Quelle est la victoire qui triomphe du monde ? C'est notre foi. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ. Il vous a délivré de ce présent siècle mauvais, de ce monde. Il vous a délivré de ce monde qui passe, et vous a transféré dans un royaume éternel. Vous avez triomphé du monde. Qui est celui, verset 5, qui a triomphé du monde ? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Regardez, braves gens, vous ne pouvez pas vaincre le monde, et cela constitue la marque d'un chrétien. À moins de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous ne pouvez pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu si quelqu'un ne vous parle pas de Jésus. Personne ne peut être chrétien sans connaître la vérité, parce que le seul moyen d'être délivré de ce monde et d'être transféré au royaume éternel consiste à croire la vérité au sujet de Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas la vérité au sujet de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être délivré. Et nous sommes revenus exactement à notre point de départ. C'est pour cette raison que nous devons aller à travers le monde et prêcher l'Évangile à toute la création, étant donné que c'est le seul moyen de parvenir au salut. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes, le terme est Nike. D'où est tiré le mot Nike ? Il s'agit du terme grec pour dire vainqueur, triomphateur, conquérant. Romains 8, verset 37. Nous sommes plus que vainqueurs. Et l'une des choses que notre foi conquiert est le système du mal qui est dominé par la convoitise et l'orgueil, la sensualité, la convoitise et l'égotisme. Nous ne sommes pas sensuels dans la pratique. Nous ne pratiquons pas la convoitise. Vous savez, la gourmandise est une vertu pour le monde, et la sensualité est une bonne chose pour le monde, et l'égoïsme est vraiment bien. Mais pour nous, ce sont des péchés, n'est-ce pas ? Cette société est lancée dans une course effrénée pour toute satisfaction sexuelle qu'elle peut obtenir avec une passion matérialiste, convoitant et s'accrochant à tout ce qu'elle peut voir, transformant la beauté en complaisance, et au milieu de tout cela, faisant tout ce qu'elle peut pour exalter son estime d'elle-même. C'est cela le monde, et c'est le péché. Cependant, nous avons vaincu le monde, ce qui fait que nous le voyons tel qu'il est vraiment. Nous sommes passionnés par ce qui honore Dieu, et notre auto-évaluation est celle de l'humilité. Et lorsque nous voyons quelque chose de beau, nous lui donnons gloire pour cela. Nous sommes les vainqueurs. En fait, dans Apocalypse 2 et 3, les lettres aux églises, il est fait référence aux croyants à cette reprise comme des vainqueurs. Eh bien, comment est-il possible qu'il y ait autant de confusion sur l'identité du chrétien ? Les chrétiens ont été délivrés de l'erreur à la vérité. Ils sont parvenus à la pleine compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. Ils sont passés du péché à la justice. Ils vivent dans l'obéissance à la parole de Dieu comme style de vie. Et ils ont été délivrés du présent siècle mauvais, ce système de Satan, pour être transférés dans le royaume éternel. Ils s'affectionnent des choses qui sont en haut dans le ciel. Ils aspirent à ce qui est éternel, et non aux choses passagères de ce monde. Telle est la vérité de Dieu, et ceci doit être proclamé, afin qu'il soit glorifié et que les gens parviennent au véritable salut et qu'ils louent Dieu pour ce don. Prions. Nous terminons ces pensées ce matin avec une requête, Père. Premièrement, que tu étendes la vérité et qu'elle triomphe des mensonges. Que tu étendes la vérité et qu'elle montre l'erreur. Qu'elle expose la tromperie qui laisse tant d'âmes embrouillées et qui empêche la véritable œuvre d'évangélisation. Et Père, que tu suscites plusieurs pour proclamer finalement la vérité et que tu détournes de l'erreur tous ceux qui sont tombés victimes. Puissent les gens avoir la vérité et puissent-ils avoir le courage de déclarer la vérité parce qu'elle t'honore, le Dieu de vérité et notre Sauveur, le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et l'Esprit de vérité béni qui a inspiré la parole de vérité pour nous. Que ta vérité soit exaltée, que ta parole soit exaltée tout comme ton nom, et que la tromperie soit exposée, afin que les gens soient effectivement délivrés de l'erreur, du péché et du monde qui passe. Nous te remercierons et nous te louerons pour ta gloire. Au nom du Christ. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.